être femme, c'est ne pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Être trans, c'est ne pas être en accord avec le genre qu'on a assigné à la naissance. C'est-à-dire que moi, ils pensaient que j'étais une fille, mais en fait, non.
Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus.
Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM et aujourd'hui, nous sommes en escapade. On n'est pas dans le studio de la MJC Prévert, mais au Théâtre des Quinconces, Le Mans, ce samedi 15 janvier 2022.
Et vous écoutez bien Non Mais Genre, votre émission hors norme préférée consacrée au genre, au féminisme et aux questions LGBTQI+, que vous retrouvez un mercredi sur deux de 20h à 21h.
Et en attendant les convergences des luttes et l'intersectionnalité à tous les étages, on vous propose aujourd'hui du partenariat en circuit court. Radio Alpa et la scène nationale des Quinconces l'Espal, main dans la main, pour parler des questions de genre et de féminisme.
Aujourd'hui, on est ravis d'être accueillis dans ce bar du Théâtre des Quinconces pour la première édition du Temps Fort, Les Inspirantes.
De quoi bien commencer l'année, puisque toute la programmation du mois de janvier est une traversée féministe avec des femmes obstinées, guerrières, désobéissantes, provocantes. Ça décoiffe et ça donne envie.
Qui a dit que 2022 commençait dans la morosité? En plus, aujourd'hui, Suzy, on est dans la journée spéciale du mois spécial.
Et oui, Bertrand, aujourd'hui, c'est la pensée joyeuse. Ce matin, vous avez peut-être eu la chance d'écouter les conférences organisées par l'association Femmes d'Histoire.
Et si ce n'est pas le cas, venez vite pour nous écouter en direct, mais surtout pour assister à Drag You, la nouvelle création de Magali Mougel. Avec nous sur ce plateau spécial, Virginie Bocard, directrice de la scène nationale Les Quinconces L'Espal.
Bonjour.
Emmanuel Travers, chargée de communication et de relations publiques pour Les Quinconces L'Espal.
Bonjour.
Cécile Bacquès, metteuse en scène de Drag You, et Hazel Thibault, comédien qui joue dans cette pièce.
Bonjour.
Amandine Basli, bénévole au planning familial.
Bonjour.
Chroniqueuse aussi à Non et Genre, notre émission.
Malou Esten, membre du collectif Gangrène, intermittente du spectacle et organisatrice du Ladyfest d'Alençon.
Bonjour.
Et Elvire Pasto des Rosis du Mans.
Bonjour.
Yelles ne sont pas là, mais on fait coucou aux autres chroniqueurs de l'émission, Thomas, Mathilde et Johnny.
Alors Virginie Bocard, merci de nous accueillir au Théâtre des Quinconces. Comment est venue l'idée de faire un jour un focus d'un mois sur les femmes?
L'idée, elle est venue de comment, quel projet imaginer pour cette scène nationale et surtout quel récit on pourrait inventer sur une saison et comment on, voilà, quel spectacle on accueille, pourquoi ceci plutôt que d'autres. Et puis, il y a Cécile Bacquès qui est juste en face de moi. Et
bonjour.
C'est aussi des choses qu'on a élaborées il y a quelques mêmes années. On a eu une première collaboration ensemble quand j'étais dans une autre ville où il était déjà question d'enjeux féministes. Et je me suis dit comment il serait important de rythmer la programmation avec un mois plein sur des femmes qui seraient des femmes inspirantes et les éclairer, les mettre en lumière comme on va le faire pendant tout le mois. Donc ça vient de là, c'est assez simple en fait.
Donc la programmation, on l'a dit, elle s'étend tout le mois de janvier, hein, c'est ambitieux. Mais on est déjà le 15, on est le 15 janvier, donc on a dû rater plein de trucs. Comment on fait pour rattraper? Qu'est-ce qui reste une quinzaine de jours? Qu'est-ce qu'il faut absolument pas manquer, Virginie?
Je dirais que ça dépend aussi des goûts de chacun et chacune. Là, on sort d'hier de Jane Birkin au plateau et qui était un moment absolument magique, extrêmement émouvant. Donc, moi, j'ai pas du tout d'orientation précise à donner. Chacun et chacune vient voir ce qu'il a bien envie. Mais en tout cas, on a encore jusqu'à la fin du mois, je pense, déjà cet après-midi, Drag You, qui une sortie de résidence et qui pose vraiment la question de l'identité et des identités aussi plurielles. Et donc ça, c'est un rendez-vous important parce que c'est un travail de recherche, de création. Il y a aussi tout cet après-midi autour de la pensée joyeuse, et c'est pas rien d'être réunis tous ensemble aujourd'hui avec des associations qui sont là. Tout à l'heure, votre collaboratrice qui travaille au planning familial, donc ils sont là aujourd'hui avec nous. Donc ça, ce temps fort Les Inspirantes, il est pas hors sol, quoi. Donc il y a la semaine prochaine, il y a un spectacle de danse qui s'appelle Ninjinska, voici la femme, qui parle d'une chorégraphe russe qui a été complètement invisibilité en son temps. On parlait plus de son frère Nijinsky. Et au plateau, on verra, on découvrira les chorégraphies qu'elle a signées il y a quelques années en arrière. Donc en fait, la programmation, elle est vraiment multiple et elle permet de voir, des, comme je le disais tout à l'heure, des parcours de femmes inspirante. Il y a le spectacle aussi autour de Nina Simone. Donc voilà, je pense qu'on a une programmation qui est très riche et très éclectique et qui nous permet, j'espère, de s'y retrouver, qui que nous soyons.
Et il y a aussi plusieurs donc, partenariats, vous l'avez évoqué, qui ont rendu ce mois des inspirantes possible. Est-ce que l'une de vous, Emmanuel, peut-être peut nous en parler ?
Oui, alors c'est vrai que sur toutes ces questions autour de la femme, beaucoup de structures, d'associations, de collectifs œuvrent depuis nombreuses années ou même plus récemment et tout au long de l'année. Et nous, l'idée, c'était forcément de travailler avec les partenaires locaux, les acteurs locaux et de mettre en lumière, de rendre visible ce travail autour des questions féminines de toutes ces associations dont je vais pouvoir vous les citer, qui sont plusieurs parmi nous aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a le planning familial avec la permanence arc-en-ciel, l'association pour la cause freudienne, le mouvement d'Uni, Femmes solidaires 72. Sur la façade, il y a eu aussi des collages féministes Le Mans. Voilà, les Rosies seront aussi avec nous cet après-midi pour une ACA. Le collectif Gangrène, Femmes d'Histoire, bien sûr, ce matin. Et voilà, c'est un travail qui a commencé l'année passée, puisque ce festival devait déjà avoir lieu l'année dernière, mais à cause de la crise sanitaire, ça n'a pas pu se faire. Donc, parce que c'est vrai qu'il y avait des choses aussi, l'année dernière, on avait commencé ce partenariat avec le CIDFF, avec d'autres associations qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais avec qui on va poursuivre ce travail et qu'on pourra encore découvrir des choses dans les mois à venir. C'est vrai que c'est un temps... là, le mois de janvier, pour ces questions-là, mais c'est aussi un fil rouge tout au long de la saison. Et il y a des spectacles sur ces questions tout au long de la saison. Et du coup, on risque encore d'y... Enfin, il va encore avoir des événements avec ces partenaires.
Et quel sens donnez-vous, du coup, à ces partenariats ? À quel niveau elles interviennent, ces associations ?
En fait, par exemple, la rencontre qui a lieu tout à l'heure avec l'éclairage de Clotilde Le Guil, qui est philosophe et psychanalyste sur la sortie de résidence de Draguiou, eh bien c'est un moment, une carte blanche à une association en disant voilà, est-ce que vous pouvez être là aujourd'hui et comment vous pouvez aussi prolonger l'action que nous menons. Donc c'est la première édition de ce festival et pour nous c'est extrêmement important, comme je le disais tout à l'heure, qu'on soit pas déconnecté d'une réalité locale, de sujets politiques extrêmement importants et qui sont au cœur des enjeux de notre société aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure à l'équipe de Draguiou, cette pièce, elle est quand même assez incroyable, déjà dans sa langue, dans la syntaxe, ce yell qui est au plateau, qu'on entend pour la première fois, sa première fois que j'entends, oui, au plateau un yell. Et moi, je suis pas toute seule là dans ce théâtre énorme à me dire tiens, on va faire les inspirantes, quoi. Sans les autres, sans vous, même Radio Alpa cet après-midi, ce temps fort n'aurait pas tout son rayonnement. Et c'est petit à petit que les choses vont se mettre en place, et c'est le travail de plusieurs années.
Le collectif avant tout, quoi.
C'est ça, c'est le collectif, et c'est aussi avec les ressources de chacun et chacune, les moyens de chacun et chacune, et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui dans la société.
La programmation, elle évoque des femmes, alors guerrières du quotidien, je crois que ça vient de Monique Wittig, c'est l'expression, des femmes artistes, les questions liées au genre, la GPA avec la pièce pour autrui qui est à venir. Toi, Virginie Bocard, qu'est-ce qui t'a le plus touchée personnellement et aussi professionnellement dans tous ces thèmes-là ?
Dans ces thèmes-là, en tout cas dans les spectacles qui ont été choisis, puisque oui, je pense qu'il faut qu'on va situer là par rapport aux inspirantes. Moi, je pense que la pièce pour autrui a bien lancé les inspirantes. Et je parlais tout à l'heure du YEL, la pièce pour autrui, aussi pour une des premières fois au plateau, j'entends parler d'utérus, de PMA et de sujets qui sont des violences psychologiques, gynécologiques possibles, qui peuvent poser aussi des traumas psychologiques. Et je trouve que c'est important que la parole se libère et qu'on puisse au plateau évoquer des sujets extrêmement importants, que ça reste pas dans la sphère intime et privée. Donc sur le spectacle de Pour Autrui, de ce que c'est porter un enfant pour une autre femme, la question du don, du coup aussi la question de la sororité, et là qui est complètement incarnée, c'est important. Donc voilà, c'est un spectacle qui m'a marquée, comme hier Jane Birkin au plateau, elle a 76 ans, c'est ses premiers concerts, elle a été victime d'un AVC à l'automne, et de la voir au plateau et cette traversée-là dans les années, et de voir cette femme quand même absolument inspirante pour le coup, parce que vous parlez de guerrière, d'héroïne, donc, mais c'est, voilà, ça peut être aussi bien des femmes artistes comme elle, comme quelqu'un qui décide de faire appel à la PMA pour avoir un enfant, donc c'est aussi des femmes du quotidien, donc les inspirantes, c'est ça, c'est pas modéliser ou faire des icônes, mais se dire, voilà, il y a des femmes ou des êtres humains qui dans nos parcours peuvent aussi nous faire emprunter certains chemins plutôt que d'autres et qui peuvent nous muscler. Voilà.
Merci Emmanuel Travers et Virginie Bocard.
Vous pouvez également retrouver notre émission sur Les Inspirantes avec une interview de vous deux. On était venus au Théâtre des Quinconces la semaine dernière, il y a 15 jours, voilà. Sur le site de Radio Alpa à la rubrique « Non mais genre ».
Et justement, donc on va aussi s'écouter un peu de musique. Un titre d'une formation propulsée par Lucie Antunes, une percussionniste. Donc c'est la formation Sergueï, programmée le 28 janvier, si je ne me trompe pas. Donc,
dans le cadre de ce mois des Inspirantes.
Tout à fait, c'est parti.
Genre.
Une émission hors norme.
Et nous sommes toujours en direct du théâtre des Quinconces, du bar des Quinconces sur Radio Alpa 107.3 à l'occasion de la journée spéciale La Pensée Joyeuse dans le cadre du mois des Inspirantes.
Et donc, comme le disait Virginie Bocard, dans cette programmation, il y a une création. Mais là encore, on est dans le local, puisque c'est une pièce de Magali, écrite par Magali Mougel, une autrice mancelle. Et ça s'est joué jeudi, vendredi, et la dernière, c'est pour tout à l'heure, à 15h.
Et c'est une sortie de résidence. Alors avec nous pour en parler, Cécile Bacas, metteuse en scène, et Hazel Thibault, comédien. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pour celles qui n'ont pas eu la chance de voir cette pièce, qui veut nous faire un petit résumé ?
Alors, je me lance, moi, donc, en tant que metteur en scène. Moi, j'aime bien dire metteur eux. Voilà.
Okay.
Ça, c'est dit. C'est une femme, en fait, une femme cis, qui s'interroge, qui est dans son cadre familial avec son compagnon et l'enfant de son compagnon. Et c'est l'enfant qui porte la question de l'identité de genre et de la non-binarité. Et en fait, c'est cet enfant ou cette adolescente qui va provoquer chez la femme un questionnement. Donc, on est dans la tête de la femme, on est dans son imaginaire. Il y a des scènes qui sont restituées et évoquées en parallèle, des scènes familiales autour d'un repas. Mais c'est vraiment le questionnement intérieur de la femme. Voilà.
Et beaucoup articulé, enfin décliné autour du quotidien, puisqu'il y a ce repas.
Oui, oui, parce que l'ancrage du texte de Magali et du scénario qu'on a imaginé ensemble, c'est vraiment une scène de repas où ça s'est mal passé. On comprend en fait au fur et à mesure que ça s'est mal passé, que voilà, que l'échange entre le père et l'enfant, l'adolescente, est très tendu, très difficile. Et la femme, en même temps, elle n'est pas la mère de cette adolescente, elle est la belle-mère, compagne du père, donc elle ne se sent pas légitime à intervenir. Et il y a en même temps une relation, je crois, assez particulière qui se tisse d'écoute, une relation d'écoute et d'attention et de considération qui se tisse entre la femme et l'adolescente.
D'accord. Et donc, il y a plein de thèmes qui arrivent dans la pièce. On est allé la voir avec Suzy et il y avait Armandine aussi qui était là. Jeudi soir, on a beaucoup aimé. Et il y a, les oppressions, l'oppression sexiste. Il y a le discours masculiniste aussi de Simon qui intervient pour affirmer sans arrêt des choses. Comment tous ces thèmes sont arrivés ? Alors, il faudrait poser la question peut-être à Magali Mougel, mais comme vous avez travaillé ensemble la pièce...
Oui, en même temps, c'est un projet qu'on tisse en dialogue, donc je peux pas parler à sa place, de la place de l'écriture, mais sur le projet, comment c'est arrivé ? Parce que c'est des questions qui nous occupent, tout simplement, et l'une et l'autre. Je crois que voilà, c'est en fait tout simplement. Après, la question, elle n'est pas seulement... C'est-à-dire... pour moi, c'est une question toujours, c'est-à-dire qu'est-ce que le théâtre, en fait, qu'est-ce que depuis le plateau, on peut proposer pour, d'une certaine façon, travailler à cette question de politique large. C'est une question très large, la question de l'oppression sexiste, du rôle du masculin, des identités de genre, enfin, c'est un ensemble de sujets, tu l'as dit. C'est qu'est-ce que le théâtre peut proposer là-dedans ? Moi, c'est ça, en fait, qui m'occupe. Donc, je pense que le scénario... les personnages, les rôles, le travail, tout ça, c'est un ensemble en fait qui part de cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut, nous, théâtre, proposer ?
Et si je te pose la question, comment tu y répondrais ?
Laquelle ?
Qu'est-ce que le théâtre a à proposer ?
Des fictions, des images, des représentations, des liens qu'on n'a pas encore vus, d'une part, et puis d'autre part, de la langue, des mots. C'est vrai, Virginie le disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'en tout cas, elle entend Yael sur un plateau. C'est vrai que c'est aussi un bouleversement de la langue, cette question politique, et ça c'est passionnant pour des artistes de théâtre, donc voilà.
De jouer en inclusif,
carrément.
Entendu.
Carrément.
Et est-ce que parler de ces sujets, peut-être que vous deux pourrez y répondre, est-ce que parler de ces sujets, traiter de ces questions, nécessite une démarche de travail aussi bien sur le jeu ou sur la mise en scène particulière ? Comment vous y êtes pris et prise et qui a participé aussi à l'aventure ?
C'est un travail d'équipe, c'est une petite équipe, donc tout le monde participe. Après, la question de l'écriture inclusive, elle est, je pense que, voilà, qu'on le sait tous et on le sait toutes, quoi. C'est pas, il y a plusieurs façons de faire, quoi. Donc après, il faut faire un choix pour préserver l'unité du plateau sur cette proposition-là de Drag You. Mais oui, les questions d'écriture inclusive, on en a parlé.
Et le jouet, du coup ?
Mais le jouet, c'est... en fait, la question, c'est de comment on oralise la langue qui est écrite aussi. Donc après, ça c'est, oui, c'est une question d'unité sur le plateau. On se met d'accord sur une règle ensemble et après on applique.
Voilà. Et toi, Hazel, donc toi tu joues le personnage de
Pyroline.
Pyroline,
ouais.
Qui s'appelle pas Pyroline au début de la pièce, je crois. Hein.
Oui, oui, c'est ça.
Et mais qu'est-ce que c'était de jouer un personnage comme ça? Parce que c'est assez inédit au théâtre. Enfin, je pense pas que ce soit la première fois, mais enfin, on n'en voit pas des tonnes.
Alors, bah, du coup, moi, je suis une personne non binaire, donc c'est quelque chose que je connais. Et puis, je suis très fière de pouvoir défendre ça sur scène aussi, parce que effectivement, on a besoin de représentation, notamment dans le milieu du théâtre, et dans le milieu du cinéma, et enfin dans tous les milieux artistiques, c'est important qu'on ait des représentations aussi. Donc oui, je suis très fière de pouvoir défendre ça sur scène.
Et du coup, vous en êtes où dans votre travail et comment vous travaillez en fait?
Bah, là, en fait, on joue depuis jeudi. Alors, on joue en même temps une forme intermédiaire, hein, puisque c'est une première, c'est sortie de résidence. C'est toujours la question, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, sortie de résidence? Ça veut dire on propose une première étape de travail. Les comédiens et comédiennes ont encore le texte en main. Donc, c'est une forme un peu particulière avant, peut-être, d'imaginer qu'on va vraiment aboutir le spectacle. Et ça, si on le fait, c'est pas tout de suite. C'est plutôt l'année prochaine ou voire l'année suivante. Le temps de le produire, en fait, de réunir les partenaires, voilà, à partir du Mans et d'avoir d'autres partenaires autour. Moi, en fait, il y a une chose sur laquelle j'avais envie de revenir parce que c'est une question que je me suis posée et qu'on s'est posée avec Magali, l'autrice, donc, et la metteur en scène que je suis. C'est ce personnage, donc, de Perrine, devenue Pyroline. Ce personnage non-binaire, par qui il faut qu'il soit joué? Par qui il faut qu'elle soit jouée? Ça, c'était quand même une sacrée question. Et moi, je crois que historiquement, c'est juste pour rebondir sur ce que Hazel vient de dire, que là, en ce moment, on est à un moment où, parce qu'il y a besoin de représentation pour, d'une certaine façon, encourager tout le monde, pour que tout le monde puisse s'empuissanter et confirmer ses points de vue et se consolider, et se dire que oui, on est nombreux, nombreuses à porter ces questions-là. Ça me semble juste et important que ce soit une personne non-binaire qui le fasse. Donc, il fallait rencontrer Hazel, il fallait partir à la recherche d'Hazel, qui est originaire du Mans. Donc ça, c'est fait, voilà. Et puis peut-être que moi, dans 10 ans, j'espère d'une certaine façon, ça n'a rien à voir avec Hazel, mais j'espère que dans 10 ans, cette question-là sera plus ouverte. Enfin, j'espère, j'en sais rien en fait, mais en tout cas... Je ne sais pas s'il faut qu'elle reste étroitement liée à la question de la lutte politique. Pour l'instant, on en est là. Mmh. Voilà. Donc moi, je vais, comme c'est un art du présent, le théâtre. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, c'est ça, parce que je sentais bien que ce n'est pas juste de proposer à une adolescente ou à une jeune actrice ou à un jeune acteur pas concerné par ces questions, ça ne m'allait pas. Je pensais que ce n'était pas juste. Et puis voilà, donc pour l'instant, on en est là. Peut-être, bah si dans 10 ans tout est complètement ouvert, on se posera la question différemment.
On fera jouer des rôles de femmes par des hommes.
Je pense,
hommes,
voilà, par exemple, ce matin j'ai entendu parler Océan, moi j'ai regardé avec énormément d'intérêt la web-série d'Océan, que je trouve incroyable, et je vois bien que c'est aussi Océan, c'est un comédien qui dit, bah maintenant moi je veux des rôles, et je veux des rôles d'hommes, quoi. Et personne ne me les donne. Mm-mm. Et je trouve que ça vient interroger justement ce truc des représentations dans lesquelles on... Voilà, sujet sur lesquels on avance pas à pas.
Cécile, du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'auditoristes qui ont envie de voir Drag You. Tu disais, donc la sortie de résidence, c'est tout à l'heure, 15h, la dernière. Il n'y aura pas d'autres dates pour celles qui veulent rattraper?
Je ne peux pas le dire.
Okay.
Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas que je ne peux pas le dire, il n'y a rien de caché. Aujourd'hui, oui. on ne sait pas. En phase de pré-production. Là, le festival Les Inspirantes, c'est un cadre idéal pour nous pour proposer, pour formuler cette proposition. On verra. On vous tiendra au courant. Voilà.
Et puis on préviendra les auditrices dès qu'on aura l'info.
Mais bien sûr.
Merci Cécile Bacquès.
Et merci Hazel Thibault.
On va s'écouter un petit morceau en lien avec la pièce qu'on entend. D'ailleurs, dans la pièce, c'est un morceau de Meredith Monk. No.
mais genre.
Une émission hors norme.
Et vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Non mais genre.
Et vous venez d'entendre un morceau de Meredith Monk, Waltz, un morceau qu'on entend dans le spectacle Drag You.
Et nous sommes donc toujours en direct du Théâtre des Quinconces dans le cadre de la journée La Pensée Joyeuse.
Dans le cadre de ce temps fort Les Inspirantes, organisé par la scène nationale Les Quinconces L'Espal, tout le mois de janvier.
Avec nous également, trois femmes engagées, inspirantes. Amandine.
Bonjour.
Malou.
Bonjour.
Et Elvire.
Bonjour.
Vous pouvez nous parler de vos collectifs, de ce que vous y faites et de ce qui vous a amené à faire ça. Qui commence ?
Amandine.
Alors, moi, donc, je suis Amandine, je suis bénévole à la fois au Planning Familial 72-53 et à Homogène, le centre LGBTI plus du Mans. Dans le cadre d'un partenariat de ces deux associations autour de l'accompagnement du public LGBTI+. Et à ce titre, j'accompagne depuis 4 ans des personnes en questionnement sur leur identité de genre et dans leur parcours de transition. Voilà.
Avec un groupe de parole sur ces questions-là, notamment ?
Oui, il y a une passerelle le mardi de 17h à 19h, où en fait c'est... passerelle parce que quand on est en début de questionnement, on ne va pas forcément d'emblée aller pousser la porte d'une association déjà étiquetée LGBTI. Mmh. Donc voilà, et en l'occurrence, ça fait bien le job. Voilà.
Malou ?
Alors moi, je suis invitée ici à Radio Alpa pour représenter Gangrène, un collectif de femmes en non-mixité qui mène des réflexions en fait sur les questions féministes. Hein, donc un collectif qui est basé au Mans. Et qui notamment s'est cristallisé autour de la fabrication d'un fanzine. Donc le fanzine Gangrène, voilà, avec des articles sur tous les sujets et surtout un objet, celui de la visibilisation des femmes et l'expression, en gros, des personnes ressenties comme femmes dans l'espace public, comme dirait Amandine. Et puis aussi, il y a d'autres choses avec le collectif Gangrène. Il y a le Ladyfest qu'on a monté l'année dernière, donc un festival. À l'origine monté par les Riot Girls, ouais. dont je m'occupe, qui a été fait à Alençon, donc à Chapelle-Mel, dans un tiers-lieu, et donc qui va reprendre hein, l'année prochaine, le 8 et 9 octobre, enregistrer la date.
Ouais.
Et puis enfin, ouais. aussi, une autre action qu'on mène, donc tout ça toujours dans l'objet de visibilisation des femmes artistes notamment, c'est organiser des expositions.
Il y en a une petite mini en bas dans le hall des Quinconces. Et puis Elvire ?
Donc moi je fais partie des Rosy, donc c'est un mouvement, hein, c'est pas une association pour l'instant, ça reste un mouvement qui a été créé il y a 2 ans, lors de la réforme des retraites. Et pour dénoncer en fait le fait qu'avec cette réforme, les femmes étaient non pas les grandes gagnantes comme on a pu entendre, mais les grandes perdantes. Et c'est un mouvement qui s'est fait un peu naturellement sous la responsabilité d'Attaque au départ, qui a été récupéré par plusieurs collectifs féministes, en fait. Et on a choisi... c'est parti d'une chanson, en fait, à base. C'était la chanson « À cause des garçons » qui s'est transformée à cause de Macron. Et pour incarner cette chanson, il semblait évident que c'était les femmes qui travaillaient. Donc, on a mis un bleu de travail. Et puis, pour signaler aussi qu'on voulait mettre en avant les femmes qui avaient des charges domestiques, on a mis les gants jaunes. Et très vite, c'est arrivé par elle-même l'image de la Rosie, la rifteuse. Et nos actions, en fait, à chaque fois qu'on a des actions qui touchent les femmes et qui touchent aussi les inégalités des femmes, on sort dans la rue, on participe aux manifestations. Et l'idée aussi, c'est dans cette pensée joyeuse, c'est de le faire joyeusement, justement en dansant, en étant costumé et en prenant la place sur la place publique, là où les femmes ne l'ont pas forcément.
Voilà. Bien. Peut-être avant de poursuivre sur vos réactions à Drag You et sur les questions que cette pièce évoque, on va s'écouter un petit morceau. Dub St. Jude, a girl like.
I'm like my mama, sometimes it's drama. Forget the karma, might hear me holler. Reverse Madonna,
that's me.
My bike's a Honda,
that me.
Michelle Obama,
that me.
You feel me holler.
Sissy,
I'm a girl just like. I'm a girl just like. I'm a girl just like.
is my heart and my pride. Cash money for the game on the streets. The only way to hustle is to spit it on the beats. Don't fuck around when I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz. Wanna box on my flow, but I don't give a fuck. I'm the shit that I know.
Drama. Drama. Karma. Might hear me holler. I'm a girl just like what? I'm a girl just like I don't give up. I'm a girl just like what?
I'm a girl just like
I don't give a fuck. Hey.
Skip train, girl by my side.
No.
Red lights flash and we run and we hide. Home girl got her head in the books and I translate words with my bars and my hooks.
Kick down, hey.
Don't fuck around when I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz. When I box on my flow, but I don't give a fuck. I'm the shit and I know. Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck. I'm the shit.
I'm like my mama.
That's me.
Sometimes it's drama.
That me.
Forget the karma.
That me.
Might hear me holler. Reverse Madonna.
That's me.
My bike's a Honda.
That me.
Michelle Obama.
That me.
You feel me holler.
I'm a girl just like
what? I'm a girl just like
I don't give up.
I'm a girl just like what?
I'm a girl just like
I don't give a fuck. I don't give a fuck.
Non, mais genre.
Une émission hors norme.
Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Non, mais genre.
Et vous venez d'entendre Dope St. Jude avec le titre Girl Like.
Et nous sommes toujours en direct du bar du Théâtre des Quinconces pour accompagner la journée spéciale La Pensée Joyeuse.
Et donc, on est allé voir Drag You jeudi soir. On a beaucoup aimé.
Ouais.
On en ressort avec beaucoup de questions qu'on a envie de poser à nos invités.
Ils sont là.
Qui sont là avec nous. Quel est votre regard sur les femmes aujourd'hui et sur le genre en général ? Amandine ?
Ouais, alors attends, pas tout en même temps. Donc déjà, Drag You, et puis après,
ouais,
on va
c'est ça.
Tisser un peu,
ouais.
Parce que vaste sujet. Déjà, toute petite chose, j'ai adoré voir un spectacle en écriture inclusive. Voilà. C'est toujours une question que je me suis posée. Moi, je valide évidemment l'écriture inclusive, mais on se pose la question dans la création. Notamment, moi, j'écris, donc tu te poses forcément la question de qu'est-ce que ça peut donner. Et ça marche hyper bien. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je voulais quand même centrer sur le personnage de Pyroline, qui en effet cristallise quand même le cœur des questions de ce spectacle. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce personnage, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment si on a affaire à une personne qui revendique une non-conformité ou, enfin, de genre, ou s'il s'agit d'une personne trans. Je le formule comme ça parce qu'en fait, moi, au fil de mes réflexions, de mon expérience sur le terrain auprès des personnes concernées, j'en ai tiré une différence. Enfin, voilà, j'ai fait une distinction, en fait, qui me semble moins importante. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un mouvement qui commence à prendre pas mal d'essor, particulièrement au niveau de la jeunesse. Voilà, les jeunes n'ont plus envie d'être assignés à des rôles qui seraient pré-écrits, pré-pensés pour eux. Et voilà, des rôles, des places, tout un scénario, en fait. Et ils ont envie de pouvoir au moins l'interroger et pouvoir choisir, pouvoir s'auto-déterminer. Voilà. Donc ça, c'est super important, ça fait bouger tout un tas de choses. On veut sortir de l'assignation du genre à la naissance. Donc ça, c'est chouette. D'ailleurs, j'ai entendu que c'était la deuxième préoccupation, je crois, après l'écologie chez les jeunes. Donc ça dit quand même quelque chose. Mais voilà, ça c'est la non-conformité, c'est-à-dire un désir d'interroger. Y a en effet du malaise, du mal-être. Mais on n'est pas dans une question de survie, au sens où pour les personnes trans, pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité à vivre en étant perçues, identifiées, reconnues dans le genre qui a été assigné à la naissance.
Et c'est pas compliqué parfois la cohabitation entre ces deux réalités ?
C'est un petit peu compliqué parce qu'on voit beaucoup de jeunes, et moi je jette la pierre à personne, je pense qu'ils sont aussi dans une recherche de quelque chose et ils vont brandir l'étendard de « je suis non-binaire, je suis trans » parfois, et en l'occurrence il s'agit pas de transidentité et donc pas de non-binarité, parce que la non-binarité, la vraie entre guillemets, elle est comprise dans la transidentité. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est surtout que ça crée une confusion chez les personnes qui ne connaissent pas ces problématiques-là, qui ne se sont pas forcément posées ce type de questions.
Et donc on mélange
un peu tout.
En fait.
On entend que maintenant tout le monde est trans, que tout le monde veut changer de sexe, de genre. C'est un petit peu plus complexe que ça, un petit peu plus nuancé. Et pour les personnes trans, pour le coup... Il y a vraiment une inadéquation qui est insurmontable dans le genre vécu et le genre qui a été assigné.
Et donc, comment tu as perçu...
Là, il est question de survie, pour le coup.
Comment tu as perçu le personnage de Pierre-Olien au regard de ces deux...
Alors, je vois quand même qu'il y a, je pense qu'il y a quand même un conflit avec le corps. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est assez compliqué avec le corps tel qu'il a été donné à la naissance. Et il y a quand même... c'est une personne qui se fait renommer. Et qui demande à avoir son propre pronom. Donc pour moi, on serait quand même plutôt du côté de la transidentité. Mais voilà, après, je trouve ça intéressant que ce soit pas tellement figé finalement, parce que ça laisse toutes ces questions-là super ouvertes. Et ouais, c'est d'autant plus intéressant, je trouve. Voilà.
Yeah. Malou, du coup, là, on parle de non-binarité. On s'approche aussi d'une définition de soi. Par le biais de la singularité, quand on est dans un collectif comme Gangrène, non mixte, est-ce qu'il y a toujours un intérêt et pourquoi il y a un intérêt à se retrouver en non-mixité ?
Eh bien oui, en fait, d'ailleurs, je me demande encore pourquoi on se pose cette question-là à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 2022, au moment où je vous parle. Eh bien oui, en fait, je ne sais pas, moi j'envisage déjà le féminisme un peu comme... la question de la lutte des classes ou la question du racisme. À quel moment est-ce qu'on s'est dit que dans la lutte contre le racisme et pour les droits des personnes noires aux États-Unis, eh bien, il était problématique de se retrouver entre personnes afro-américaines pour pouvoir lutter pour ces droits et réfléchir justement sur comment mener cette lutte, comment arriver à, par exemple, arriver à la fin de la ségrégation, à la fin de l'esclavage, des choses comme ça, enfin bon... J'ai envie de dire, c'est pareil pour la question de la lutte contre le sexisme. Donc la non-mixité, elle est importante puisqu'elle amène, entre autres, la libération de la parole des femmes qui sont victimes de violences sexistes. Et juste pour ça, déjà, en premier lieu, je crois que c'est hyper important de maintenir et de conserver ces espaces qu'on considère comme safe, c'est-à-dire sécure, enfin, où on peut se sentir à l'aise et... légitime de prendre la parole et de s'exprimer.
Et ça ne viendrait pas renforcer la binarité qui serait la source d'un déséquilibre ?
Alors la vraie question, c'est est-ce que l'avenir du féminisme, c'est l'abolition des genres ?
Bah ça, c'est la question qu'on va vous poser après, ça va faire l'objet d'un échange.
On attend la dernière
du coup,
question.
On va peut-être passer à Elvire, on avait une question pour elle.
Ouais, Elvire, tu fais partie, donc tu l'as dit, des Rosies. Tu as expliqué un petit peu le costume des Rosies. Alors, le bleu de travail, ouais. Les gants jaunes, etc.
Oui, le foulard rouge et
donc,
à poids blanc.
Il y a une espèce de collusion, enfin, de mélange des questions féministes et des questions sociales. En plus, tu le disais, c'est apparu au moment des manifs sur les retraites. Ça a dopé pas mal hein, les cortèges, enfin, notamment au Mans. Je me souviens que ça mettait de la pêche dans les cortèges. J'aimais bien de la musique et puis de la chorégraphie. Donc, cette espèce de collusion entre les questions féministes et les questions sociales. Pour toi, c'est super important, l'intersectionnalité dans le...
Oui, voilà. De toute façon, on part d'un groupe de travailleuses et qui subissent des inégalités au travail, hein, de base. Donc, c'est un peu... Effectivement, le social est très, très présent. Sachant qu'en plus, nous, les femmes, on a quand même tendance à occuper des postes qui sont moins rémunérés de par leur nature de poste. Hein, c'est-à-dire dans le care, ce qu'on appelle le care, aide-soignante, instit. Voilà, tout ce qui est prise quand on prend soin des autres.
Et tout ce qui est indispensable en période de pandémie.
Exactement. On l'a bien vu, là. Hein.
Et les instits, les profs, enfin voilà, ce sont des métiers qui sont extrêmement féminisés et qui sont, à mon sens et à notre sens, hein, pas assez payés, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'elles proposent. Et puis, il y a aussi le côté des femmes qui ont le même travail des hommes et qui sont de toute façon dans les mêmes structures, mais qui sont moins bien payées. Donc voilà, avant tout, on dénonçait ces inégalités salariales, ces inégalités de formation, ces inégalités en général, évidemment, le plafond de verre. Là où je rejoins le collectif de Gangrène, c'est qu'on s'est posé la question de la mixité et on tient quand même pour l'instant à rester qu'entre femmes, parce que pour les mêmes raisons, hein, ça libère la parole. Et puis dans les manifs, malgré tout, bah, on voit les femmes. On voit les femmes, alors qu'avant, on voyait beaucoup les hommes. Hein, les représentants syndicaux sont souvent masculins. C'est comme ça, on va pas refaire l'histoire, mais pour le coup, les Rosies, on les voit, quoi. On les voit, on est là et on a des choses à dire aussi.
Et dans les cortèges, dans le milieu militant, l'accueil, il a été comment? Ça a fait bouger les choses? Ça a apporté des questions nouvelles?
Oui, ça a apporté des questions nouvelles. Rien que moi, ce matin, ça m'apporte des questions nouvelles. Quand j'entends ce qui a été dit ce matin, effectivement, sur nous, les Rosies, on se pose quand même la question de la mixité. Et je me dis qu'effectivement, il ne faut pas être fermé au genre, par contre. Il est probable que c'est un débat qu'on aura au genre féminin. Du coup, en restant un collectif féministe et féminin, est-ce qu'on n'a pas fermé la porte à des personnes qui seraient trans et qui voudraient nous rejoindre, ou des personnes qui se pensent genrées féminin? Voilà. Donc, c'est des questions qu'on va pouvoir débattre ensuite, de toute façon. Ouais.
Mais donc, si je peux me permettre, ça veut quand même dire que tu exclus que ce soit des personnes cis, des hommes cis.
C'est fort possible, ça, oui.
D'accord.
Tout non, à fait. Ça, c'est absolument possible, oui. Parce que, effectivement, les Rosies, on est un collectif de femmes qui se voyons au milieu d'hommes. Du coup, on se voit au milieu des hommes. Et on s'est posé la question. Et on s'est dit, s'il y avait un homme en Rosie, voilà, les caméras, les photos, elles iraient vers qui, d'après vous? S'il y avait un homme ou deux hommes au milieu de 30 femmes en Rosie, on ne verrait que. Donc, du coup, notre expression, elle serait un petit peu gommée. Et ce serait dommage.
Ouais.
Voilà, parce qu'on a des choses à dire quand même.
Tout à fait.
Faut-il qu'à moi-même je me rappelle, faut-il qu'à vous toutes je m'adresse, pour qu'au fil des mots me revienne ma nature, qui fut ma honte, ma faiblesse, ma souillure, qui fut mon combat contre moi, puis contre les autres, puis contre moi, puis contre les autres, puis contre les hommes, puis contre mon ventre mou, creux, tendre, mon ventre comme une outre que j'ai griffé de haine contre moi, contre ce que je suis. Une femme, une femme. L'outre a rempli son office, j'ai cru perdre la guerre, soumise à ma nature, à la beauté grégaire. J'ai plié sous l'amour à m'en rompre l'échine et j'ai cédé à l'appel du vide. J'ai rempli mon ventre de vie palpitante, sans savoir que le destin infatigable, déraisonnable, minable, me ferait mère d'une fille, elle sera femme, elle sera femme. Je boite d'avoir plié, d'avoir cédé, d'accepter d'être femme, plié d'être femme, cédé d'être femme, accepter d'être femme. Je boite d'avoir plié, d'avoir cédé, d'accepter d'être femme, plié d'être femme, cédé d'être femme, accepter d'être femme. Une part de moi est un homme, avec un grand H. Homme, homo sapiens, homo habilis, habile pour tout, même pour les créneaux, connard. Une part de moi est une femme, avec un petit F. Y a pas de grand F pour les femmes, y a juste les femmes encore. Encore une femme au volant, encore une qui l'a bien cherchée, encore une féministe, encore une salope, encore une chienne, encore, 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 encore. Tant que nous plierons sous l'amour, tant que nos ventres souples feront autant de filles que de garçons, tant que nous aurons la féminine sagesse de nous soumettre à nos instincts douloureux, il y aura des femmes, des faibles, des fortes, des rageuses, assassinées, caillassées, tondues, raillées, opprimées, révoltées, humaines comme des hommes, avec un grand H à conquérir, la conquête du grand H de l'homme. C'est pas rien, non?
Mais genre...
Une émission hors norme.
Et vous venez donc, et vous vous êtes bien donc déjà sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Non mais genre.
Et vous venez d'entendre La femme, un morceau de Barbara Weldens. Et donc, on arrive à la fin de ce plateau avec une dernière question bien
existentielle. Ouais. Quoi. Alors, attention, on entend ça dans la pièce. Les assignations, est-ce que, du coup, pour mettre fin à ces assignations qui sont non consenties, donc, et aux oppressions sexistes, il ne faudrait pas abolir le genre? Allez. Alors là, donc... tous les micros sont ouverts. On a toujours Cécile Bacquès avec nous, la metteuse en scène de Drag You, Elvire
Malou,
de Gangrène, et Amandine Basly du Planning et d'Homogène.
Alors moi, je veux bien essayer de dire quelque chose. Ouais. Donc, metteur en scène de Drag You, mais pas seulement, je suis une personne aussi. Moi, je ne suis pas militante, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, je trouve ça passionnant. Je suis pas militante pour plein de raisons. N'ayant pas envie de militer, mais moi d'abord, la première chose que je voudrais dire, parce que c'est une chose que le travail sur Drag You me renvoie beaucoup, et aussi dans la rencontre et donc dans le dialogue artistique avec Hazel, c'est que moi je me dis on a plus de 30 ans de différence. Je me dis mais moi j'aurais adoré à son âge, à 19 ans, j'aurais adoré être dans un monde comme ça, où cette idée-là était possible. Ce n'était pas le cas. Donc, je me suis débrouillée, tant bien que mal, en me disant, je suis femme, Mais je crois que j'aurais adoré être dans ce questionnement actuel sur les identités de genre et les possibilités. Et ensuite, alors après, sur la question de... Est-ce qu'il y a une perspective possible pour abolir le genre? Moi, je trouve que c'est un idéal magnifique. C'est une utopie magnifique. Mais je le vois comme un idéal, c'est-à-dire une chose dont je trouve souvent qu'on manque aujourd'hui. Un idéal, c'est un truc qui n'est pas fait pour être atteint, mais qui est fait pour mettre du groove en fait dans la vie, vraiment. Et parce que c'est le cas, et parce qu'on entend bien que tous vos témoignages sont il y a de la conviction, il y a de la passion, il y a de l'engagement, et c'est ça en fait qui rend quand même les vies chouettes, quoi.
Et c'est ça la pensée joyeuse.
Et c'est ça la pensée joyeuse, absolument. Wow. Ouais, tout à fait. Donc je trouve que c'est un magnifique idéal. Et que c'est ça, et je me dis aussi, mais ça c'est aussi le travail avec Magali Mougel sur Drag You, on s'est documenté, on a lu des choses, regardé des choses, rencontré des gens, mais je me dis en même temps, c'est important qu'un projet de théâtre il se nourrisse de tout ça.
D'ailleurs, si je peux me permettre, avec pas mal d'évocations et de références dans la pièce même, notamment Juliette Drouard qui a pas mal exploré le sortir de l'hétéronormativité.
Oui, c'est ça, avec son livre « Sortir de l'hétérosexualité » qui est cité dans le texte de Drag You. Et donc, je me dis, tout ça, en fait, ça pourrait constituer comme une forme de nouvelle lutte des classes. C'est-à-dire que c'est peut-être plus la lutte des classes maintenant. C'est-à-dire que la lutte des classes, elle a besoin d'être redéfinie, elle est portée. Moi, j'ai l'impression souvent qu'elle est portée... sur des catégories qui sont plus forcément... Je ne dis pas qu'il y a toujours des classes et il y a toujours des disparités de classes. Je dis que les organes qui les représentent sont parfois des structures qu'on aimerait voir évoluer et être plus en phase avec les enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Moi, c'est mon avis, en tout cas.
Peut-être que les questions, elles se superposent aussi. C'est ça qu'on appelle l'intersectionnalité.
Non, mais les questions, elles se superposent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, en France, quand on dit « lutte des classes », on voit bien qu'il y a quand même tout un champ sémantique qui vient de l'histoire qui est derrière nous. Et qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle des ouvriers et des ouvrières, ça concerne beaucoup moins de gens que ça n'était le cas il y a 50 ans. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le vote. Enfin, voilà, donc, quand je parle des organes, je parle des partis politiques ou de ce qu'ils sont devenus, comment ils sont aujourd'hui. Et je trouve, moi, que cette question des identités de genre, elle est profondément, effectivement, alliée avec ces enjeux politiques-là. Peut-être que c'est non pas une lutte des genres.
C'est peut-être là la révolution, en fait.
Ben oui, ben oui.
Amandine.
Ouais, j'y ai réfléchi un peu avant de venir à cette question-là. Je me disais qu'en fait, que l'intérêt de tout ce qui est en train de s'écrire, là, dans ce cheminement par rapport au genre, je sais pas. Alors, déjà, c'est de prendre conscience des assignations, enfin, permettre aux gens de prendre conscience des assignations, parce qu'en fait, là, on est dans notre petit groupe, on s'est posé plein de questions, mais alors, il y a encore une quantité impressionnante de gens qui ne se posent même pas la question, qui n'ont pas eu la possibilité. Donc, ensuite, de pouvoir interroger ça, de pouvoir s'approprier ce qui nous convient, mais d'avoir le choix, le droit de refuser ce qui ne nous va pas, en fait. Et peut-être de pouvoir avoir le droit de composer sa partition, en fait, singulière, sa propre façon d'être au monde. Et à mon avis, c'est là où on est vraiment dans l'intersectionnalité, c'est-à-dire que c'est vrai pour le validisme, c'est vrai pour la question...
Personnes racisées.
Les personnes racisées, c'est vrai pour
sa
le
classe
genre,
sociale.
C'est vrai pour, effectivement, les classes sociales. Est-ce qu'à un moment donné, là actuellement, on a besoin de mettre des mots valides, pas valides, hommes-femmes, trans, pas trans, etc. Parce qu'on a besoin de mots pour pouvoir lutter. Oui. C'est ce qu'on disait
c'est
tout
ça.
À l'heure.
Statistiques.
On est obligé d'identifier les groupes qui sont discriminés. Mais à terme, effectivement, l'idée, ce serait qu'il n'y ait plus forcément besoin, enfin, où chacun se nommerait comme il souhaite.
Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment envisager ça sur le plan de l'oppression. En fait, là, c'est plus qu'un idéal, c'est une exigence. C'est-à-dire pour sortir d'un système de domination qui classe les genres en deux,
oui.
Eh bien, je pense que, comme le disait Paul B. Preciado, en fait, l'avenir, vraiment, c'est l'abolition du genre. La révolution, comme dirait Bertrand. Mais aussi, eh bien, récemment, j'ai écouté un podcast sur Donna Haraway et j'ai trouvé ça super intéressant d'entendre aussi ce discours de cyberféminisme et de, je dirais que l'identité par la binarité ou par le genre est même dépassée aujourd'hui à l'heure actuelle, qu'il faudrait penser l'identité d'une autre manière.
Ah oui, j'en suis persuadée. Ouais.
Et du coup, Elvire, peut-être, parce qu'on s'approche de la fin, est-ce que tu as un regard sur cette question du sortir du genre, de comment se définir, notamment dans le cadre des luttes sociales ?
Non, j'ai plutôt parlé en mon nom. Ouais. En fait, moi, j'ai repris mes études, je suis un master ouais. En études sur le genre.
Bah. Voilà. On avait oublié ce
et
ici au Mans
en fait on est rattaché, c'est 5 universités et l'université du Mans est rattachée aussi en distanciel. Il y avait Angelina Etiemple d'ailleurs qui est un de nos professeurs, une
qui
de nos professeurs
ce matin.
Voilà. On a vu ce matin. Du coup moi je suis en plus au milieu d'étudiants qui sont bien plus jeunes que moi, qui ont une vingtaine d'années, qui se posent déjà plus cette question en fait. Ils sont non binaires, ils sont ouais. binaires. Un jour ils se parlent d'eux au masculin, un jour ils se parlent d'elles au féminin. Et ils sont homosexuels, ils sont hétérosexuels, en fait, il n'y a plus de débat. Effectivement, pour moi, l'effacement du genre, c'est un bel idéal. Maintenant, moi qui suis aussi homosexuelle, on a des idéaux et puis on a quand même des étapes à franchir avant d'arriver à nos idéaux. Et on est bien obligé de passer par la lutte, qu'elle soit joyeuse ou non. Mais effectivement, ça reste un idéal pour lequel il va falloir se battre. Et il va y avoir des étapes. Et dans le genre, ce sera la même chose que pour les autres problématiques sociales.
Bah, c'est une super conclusion.
Ouais, je crois qu'on va rester là-dessus. Du coup, on va faire quelques remerciements.
Donc, merci à Virginie Bocard. On lance peut-être le générique de fin. Merci à Virginie Bocard, directrice de la scène nationale Les Quinconces, l'Espal.
À Emmanuel Travers, chargée de communication et des relations publiques pour Les Quinconces.
À Cécile Bacquès, metteuse en scène de Drag You.
Hazel
ouais,
Thibault,
comédien.
Amandine Basli, bénévole au planning familial et chroniqueuse à Non Mes Genres et pas que et tout ça.
Amalou Esten, membre du collectif Gangrène, intermittente du spectacle et organisatrice du Ladyfest d'Alençon qui va reprendre.
Ouais. À Elvire Pasto des Rosies.
Merci au public présent au Quinconce d'avoir assisté à cette émission en direct. Auditeurs fidèles de Radio Alpa 107.3, votre meilleure radio.
Merci. Et donc mercredi prochain, vous pourrez réécouter cette émission de 20h à 22h. Et le 2 février, on fera une émission consacrée à d'autres inspirantes, mais celles plus invisibilisées, les femmes de.
Et vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de Radio Alpa ou sur le Mixcloud, de Non Mes Genres.
Et merci encore à Will Fried également et à Jean-Yves pour votre soutien.
Et votre
présence.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.